Vous écoutez, on lit pour vous.
La scène insoupçonnée des femmes acidiques. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 10 mars 2024 dans la presse. Oublie ça, la culture acidique n'est pas ta culture. Tu n'auras jamais accès à cet univers. C'est l'avertissement que l'on a lancé à Jessica Roda lorsqu'elle a voulu explorer l'univers musical acidique qui la fascine depuis longtemps. C'était bien mal connaître la passion de cet anthropologue et ethnomusicologue, professeur à l'Université Georgetown, qui vient de publier le premier ouvrage consacré à l'univers artistique des femmes ultra-orthodoxes de Montréal et de New York. Le livre « For Women and Girls Only » Reshaping Jewish Orthodoxy Through the Arts in the Digital Age, New York University Press, est une captivante incursion dans un univers méconnu qui déboulonne les stéréotypes sur les femmes ultra-orthodoxes. Née en France de parents hippies, ayant des origines séfarades, Jessica Roda a grandi en Guyane française dans un milieu multiculturel très loin du monde hassidique qu'elle a découvert à Montréal, où elle s'est posée pour poursuivre ses études. Son intérêt pour l'univers ultra-orthodoxe est né au lendemain de la mort soudaine de deux êtres chers. Le deuil l'a plongée dans une quête de repères qui était plus identitaire que religieuse. J'ai senti un manque de rituel. Après avoir exploré l'héritage juif de gens qui lui ressemblaient, elle a eu envie de quitter le confort de son système de croyances pour sonder le monde insulaire des Juifs hassidiques du Maryland et d'Outremont, tout près de chez elle, mais en même temps si loin de sa réalité. J'ai toujours été fasciné par ces gens qui ont fait totalement l'inverse de ma famille et qui ont vraiment gardé leurs origines. Fasciné de voir qu'en dépit des pressions pour se convertir et des persécutions, ces gens ont résisté et parlent encore le yiddish. La première fois que j'ai rencontré Jessica Roda, en 2016, elle en était à la première escale de son voyage en pays ultra-orthodoxe à Montréal. Elle avait commencé par en explorer la frontière en rencontrant ceux qui quittaient la communauté. Elle est ensuite allée voir de l'autre côté ceux qui restent. En route, elle a réalisé que la frontière était parfois brouillée. Beaucoup n'étaient ni d'un côté ni de l'autre, mais quelque part entre les deux. C'est en donnant des cours de piano à des adolescentes ultra-orthodoxes que l'ethnomusicologue a entrouvert la porte d'un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Je savais que la communauté était très portée sur la musique, mais j'ai découvert tout un marché underground à Montréal avec des studios d'enregistrement, des spectacles organisés dans une école hassidique du Maryland en yiddish, avec des costumes, du chant et de la danse, où j'étais la seule spectatrice non hassidique. Des spectacles pour femmes et filles seulement, afin de respecter les principes religieux de modestie qui empêchent toute activité artistique devant des hommes à l'exception de la famille. Pour y assister, l'ethnomusicologue a dû patiemment gagner la confiance des gens. C'est notamment grâce à la mère d'une de ses talentueuses élèves qu'elle a pu accéder à cette scène quasi inaccessible. C'est possible d'y assister si vous connaissez quelqu'un dans la communauté qui vous y invite, me dit la mère hassidique en question qui tient à son anonymat. La célébrité n'est pas exactement le but. On ne le fait pas pour être connu, on ne fait pas de publicité, on le fait pour nous. Notre communauté est déjà grande, avec des familles nombreuses. Sans publicité, on fait déjà salle comble. Grâce à la directrice de l'école hassidique, Jessica Roda a aussi eu accès à des archives montrant que les performances artistiques des jeunes filles s'inscrivent dans une longue tradition. Il y a des cinéastes, des comédiennes, des danseuses. C'est tout un univers que l'on n'imagine pas. La pandémie a par ailleurs donné lieu au déploiement d'une scène artistique en ligne pour femmes et filles seulement. un espace virtuel de célébrités qui, s'il n'inclut pas d'artistes de Montréal, gagne en popularité ici aussi. Cet espace provoque des débats et même des scandales au sein des communautés ultra-orthodoxes. Certains pensent que ces femmes sont allées trop loin avec leurs vidéos sur YouTube. Des rabbins ont essayé de stopper ça. D'autres trouvent que c'est extraordinaire et les soutiennent. Si des femmes de Montréal organisent des concerts de temps en temps, on y est très loin de l'effervescence ou des parfums de scandale de New York. Montréal reste plus traditionnaliste. C'est une communauté plus petite. À New York, j'ai même joué dans un film de Malky Weingarten avec des femmes hassidiques. En explorant l'univers de ces femmes de son point de vue de féministe progressiste, Jessica Roda ne voulait ni défendre leur mode de vie, ni le pourfendre, mais d'abord et avant tout le comprendre. Et d'une certaine façon, ces femmes lui ont compliqué la vie en déployant devant elle une réalité beaucoup plus complexe et moderne qu'on ne le pense. « C'est un univers où les femmes ont beaucoup d'autonomie », dit-elle. Le plus souvent, la femme juive ultra-orthodoxe, tout comme la femme musulmane, est dépeinte comme une femme opprimée en attente d'être libérée. C'est ce qu'on voit dans la populaire série « Unorthodox », racontant de façon caricaturale l'émancipation d'Esti, une jeune femme de la communauté de Satmar à Brooklyn, qui rêve d'être pianiste et qui ne peut être créative et autonome qu'en quittant le bercail. Si la vie ultra-orthodoxe peut certainement être vécue comme une oppression par les femmes et les hommes qui cherchent à la quitter, tout n'y est pas noir ou blanc. Il y a des femmes très heureuses dans ce mode de vie. Très heureuse d'avoir 8 enfants, d'autres, non. Il y en a aussi qui, tout en ayant des familles nombreuses, ne veulent pas être juste des mères et renégocient leur identité de femme hassidique, notamment à travers les arts. En les écoutant, on réalise que le religieux peut être aussi très rassurant dans un monde chaotique comme le nôtre, où l'on perd ses repères. Il peut être opprimant et réconfortant, souligne Jessica Roda. S'il lui est arrivé parfois d'envier le côté réconfortant de la vie de famille tissée serrée des femmes ultra-orthodoxes qu'elle a rencontrées au cours de son voyage, elle n'échangerait pas sa vie pour la leur. Mais le contraire est tout aussi vrai. C'était « La scène insoupçonnée des femmes hassidiques », un texte de Rima El-Khoury paru le 10 mars 2024 dans la presse.
Comment calculer le coût d'utilisation d'une voiture? Un texte d'Éric Lefrançois, paru le 1er décembre 2023 dans Protégez-vous. Ces dernières années, le coût d'acquisition d'un véhicule, neuf ou d'occasion, a augmenté dans des proportions telles que certains ménages disent ne plus y avoir accès. On peut le comprendre. Plusieurs autres dépenses s'y rattachent et vont bien au-delà des prix inscrits à la pompe. Alors, combien d'argent consacrez-vous annuellement à votre chère auto? Le montant risque de vous surprendre. À vos calculettes. Taux d'intérêt à la hausse, durcissement des normes environnementales, chaîne d'approvisionnement à 2 vitesses. Face aux mutations en cours de l'industrie automobile, les constructeurs estiment que la meilleure stratégie pour maintenir leurs profits consiste à produire moins de véhicules et à les vendre plus chers. Une bien mauvaise nouvelle pour les consommateurs. L'automobile est-elle en train de redevenir un bien de luxe comme elle le fut au début du siècle dernier? Il faut savoir que le coût d'utilisation d'un véhicule va bien au-delà du prix demandé au moment de son acquisition. Le prix du carburant pour l'alimenter pèse notamment très lourd dans l'équation. Et tout laisse croire que le tarif d'électricité suivra lui aussi une courbe ascendante au fil des ans. À surveiller donc, tout comme les hausses inévitables associées au droit de circuler, péage, immatriculation ou de se stationner. Pourtant, les gouvernements et les municipalités ne sont pas les seuls à saler l'addition. L'entretien automobile, révision périodique, réparation, représente une dépense importante. Une situation paradoxale lorsque l'on sait que les modèles récents sont de plus en plus fiables. À ne pas négliger non plus, les primes d'assurance. Elles aussi ne cessent d'augmenter en raison du coût élevé des réparations sur des voitures de plus en plus sophistiquées sur le plan technologique, mais également en raison de la fréquence des événements météorologiques extrêmes. Un outil de CAA pour faire vos calculs. Sur son site carcost.caa.ca/fr, CAA propose aux consommateurs de comparer le coût moyen d'utilisation des modèles les plus populaires sur le marché automobile canadien. Le calculateur tient compte du prix de l'essence, des remboursements du prêt et des taux d'intérêt associés, ainsi que de la dépréciation du véhicule. À ces montants s'ajoutent les assurances, le permis de conduire, l'immatriculation et les frais d'entretien, pièces et main-d'œuvre. Un montant basé sur une moyenne nationale est également indiqué pour tenir compte de certains imprévus, comme la réparation d'une crevaison ou le remplacement d'une batterie. Cet outil nous apprend, par exemple, qu'il en coûte en moyenne 8 465,15 $ par année au propriétaire d'une Toyota RAV4 neuve 2023 pour parcourir 20 000 km sur les routes de la belle province. Le calculateur établit à 42 cents le coût kilométrique de la Toyota. Fait intéressant, le calculateur de CAA évalue qu'un RAV4 LE AWD d'occasion 2015 avec 180 000 km au compteur coûtera aujourd'hui plus cher à faire rouler, 9 139,45 ou 46 cents par kilomètre, qu'un modèle neuf. Plusieurs facteurs expliquent un pareil écart. La version la plus récente du RAV4 se révèle plus efficace sur le plan énergétique, 7,7 litres par 100 km, que son aïeul, 9,2 litres par 100 km, ce qui a un impact significatif sur les dépenses annuelles en carburant. La dernière génération de RAV4 laisse ainsi une empreinte environnementale moindre que celle de son ancêtre. Sans surprise, l'autre aspect distinctif entre ces deux générations du même modèle concerne l'entretien et les réparations. Alors que le calculateur de CAA chiffrait 1 497,34 $ le prix à payer pour maintenir en bon état de marche le modèle 2023, le propriétaire du modèle 2015 devra, pour sa part, dépenser en moyenne 784,18 $ de plus. Comparer les modèles et ajuster les paramètres. Le calculateur est instructif également dans la mesure où il offre la possibilité d'établir des comparaisons entre différents modèles, toutes catégories confondues. Cela permet parfois de prendre conscience que le choix d'un modèle ou d'une catégorie a un impact important sur le coût d'utilisation. Ainsi, si vous comparez le coût annuel du RAV4 2023 à celui d'une Corolla 2015, celle-ci vous coûtera 419,51 $ de moins à faire rouler. Plus aérodynamique et plus légère, la Corolla 2015 consomme moins qu'un RAV4 2023 et émet, de surcroît, moins de gaz à effet de serre. Ces économies permettent d'atténuer les frais d'entretien et de réparation plus élevé de 884,42 $ pour ce véhicule de 2015. Vous préférez plutôt comparer le RAV4 2023, mais doté d'une motorisation hybride, à une Honda Civic 2018 ou encore à la Nissan Leaf 100% électrique? Sur le calculateur, tout est possible, et cela permet aux consommateurs de prendre une décision plus éclairée en fonction des choix qui s'offrent à lui, d'indiquer Jescaron, porte-parole de CAA Québec. Quelques bémols. L'outil permet par ailleurs d'ajuster certains paramètres reflétant les fluctuations de prix. C'est le cas pour le prix du litre d'essence, mais également pour le coût de l'assurance dont la tarification va bien au-delà de la marque et du modèle du véhicule. En revanche, impossible de déplacer le curseur sur les tarifs de la main-d'œuvre. En effet, celui-ci fixe à 80 $ le taux horaire d'un atelier, ce qui est irréaliste. Les tarifications pratiquées chez les concessionnaires atteignent parfois près du double. L'outil ne semble pas tenir compte non plus de l'explosion récente des prix des véhicules de seconde main. Et que dire des pièces de remplacement que le propriétaire d'un véhicule plus âgé peut obtenir parfois plus aisément et à meilleur coût auprès de recycleurs? Le calculateur a ses limites, et les montants associés à chaque poste de dépense peuvent fluctuer rapidement. Jescaron reconnaît que le calculateur n'est pas parfait et que les prix fixés par le fournisseur de données, Vincent Tric, ne tiennent pas compte de certaines disparités régionales, par exemple. Ce sont des coûts moyens, et l'objectif de l'outil est avant tout de faire prendre conscience aux consommateurs des différents postes de dépenses. Les montants peuvent donc varier. Dans le coût d'achat d'un véhicule neuf, par exemple, le calculateur estime que le consommateur versera un acompte de 15%. Or, ce n'est pas toujours le cas, précise le porte-parole de CAA Québec. Même chose pour le coût moyen des assurances inscrit dans le calculateur. Le montant est basé sur la situation d'un homme de 65 ans qui réside en ville ou en banlieue. Dès lors, avant de procéder à votre tour à une évaluation des coûts pour un modèle donné ou de faire des comparatifs, il importe de bien lire la section « Questions les plus fréquemment posées ». Bref, vous devrez personnaliser votre recherche sans oublier certaines nuances et dépenses que ce calculateur laisse de côté, car il existe d'autres paramètres qui peuvent avoir une incidence sur votre budget auto. Votre âge, votre expérience de conduite, votre couverture d'assurance ou encore votre lieu de résidence. C'était « Comment calculer le coût d'utilisation d'une voiture », un texte d'Éric Lefrançois, paru le 1er décembre 2023, dans Protégez-vous.
La production vinicole au Québec, une jeune industrie, un texte de Charles-Henri Coussergue, paru dans le magazine Reflet de mars 2024, volume 40, numéro 3. Dans les années 1980, les premiers vignobles commerciaux du Québec ont commencé à être exploités. En 1987, la dizaine de producteurs de l'époque a créé l'Association des vignerons du Québec, devenue aujourd'hui le Conseil des vins du Québec, CVQ, qui regroupe plus de 100 producteurs. À l'époque, le consommateur cherchait des repères et voulait presque systématiquement comparer les vins du Québec à ceux issus d'autres régions viticoles. C'est aujourd'hui chose du passé. Les vins d'ici sont désormais reconnus pour leur caractère, leur typicité et leur histoire. Au début des années 2000, la commercialisation des vins du Québec a pris un réel essor. L'accès aux tablettes de la SAQ est devenu possible en 1996 et l'accès direct aux épiceries s'est concrétisé en 2016. Deux facteurs importants qui ont contribué au développement de la filière vitivinicole québécoise. Pendant ces années de croissance, les vignerons ont par ailleurs travaillé sans relâche pour tirer le meilleur parti de leur terroir et proposer des vins de qualité. Leur passion et leur collaboration leur ont permis de développer un savoir-faire unique, tant au champ qu'au chai. Ils ont appris à travailler, selon les conditions de l'hiver québécois, et même à en faire un élément central de leur vin de manière à les rendre distinctifs et uniques. Finalement, il faut aussi souligner les efforts de l'industrie à se structurer et à rallier les vignerons, leurs divers partenaires, œnologues, chercheurs, agronomes, détaillants, etc., et les instances gouvernementales, notamment le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et de l'Alimentation, et la Société des alcools du Québec. Cette collaboration a permis d'abattre les barrières réglementaires et de développer la filière vitivinicole du Québec. Aujourd'hui, cette filière est en pleine croissance. Elle a fait des bonds de géant au cours des dernières années. La production de vin est passée de 1,4 million de bouteilles en 2013 à plus de 3,1 millions de bouteilles au cours de la dernière année, plus 120 %. Ces bouteilles sont produites par 165 producteurs possédant un permis de production artisanale. En plus de la croissance observée, les projections à moyen terme sont très encourageantes. En se basant sur les intentions de plantation des vignerons, les études estiment une croissance de 23 % des superficies de vignes d'ici 3 ans. Malgré cette croissance, toutefois, un fait demeure. Les vins québécois représentent seulement 1 % des vins consommés dans la province, et ce, même si l'intérêt pour les produits locaux n'a jamais été aussi grand. Dans un marché offrant principalement des vins étrangers, la concurrence est féroce pour notre industrie. Les vins du Québec ont pour concurrents des fournisseurs disposant de ressources très importantes pour promouvoir leurs produits. Il est donc essentiel que nous ayons un positionnement fort et efficace pour nous différencier et ainsi joindre et fidéliser les consommateurs. Malgré ce contexte extrêmement concurrentiel, il est clair que tous les éléments sont en place pour que l'industrie vinicole du Québec poursuive sa croissance et devienne prospère et florissante. Parmi ces éléments, l'indication géographique protégée, IGP, vin du Québec, doit être un élément central de la stratégie de positionnement de nos produits. Cet outil de communication permettra de mettre en évidence notre identité, des vins produits entièrement avec des raisins du Québec. Afin d'obtenir un rayonnement maximal et de générer toute la crédibilité souhaitée, le Conseil des vins du Québec va poursuivre son travail déjà bien entamé pour améliorer l'IGP Vins du Québec et en faire un outil qui contribuera au développement des vins 100% Québec. Longue vie aux vins québécois et soyons fiers de mettre le Québec dans nos verres. C'était La production vinicole au Québec, une jeune industrie. Un texte de Charles-Henri de Coussergues, paru dans le magazine Reflet de mars 2024, volume 40, numéro 3.
Comment modifier un testament? Un texte d'Édu Calois, paru le 1er mars 2024 dans le magazine Virage. Vous avez des modifications à apporter à votre testament? Mais vous ne souhaitez pas retourner voir votre notaire? Vous craignez que certains avantages d'un testament notarié soient perdus en cours de route? Voici ce que vous devez savoir pour modifier un testament et éviter les mauvaises surprises. Une simple modification. La modification du testament est appelée codicille. Elle est normalement utilisée pour effectuer des changements minimes au testament existant. Si cette modification est faite sous forme holographe, c'est-à-dire à la main ou devant témoin, elle devra être vérifiée par le tribunal ou par votre notaire à votre décès. Si vous faites ce choix, À votre décès, des frais d'environ 1 500 $ seront facturés pour demander au tribunal ou à une ou un notaire de vérifier votre codicille. À noter que ces frais peuvent varier. Le processus de vérification d'une modification de testament peut prendre plusieurs semaines, voire des mois. De plus, il arrive que des modifications faites maison entraînent des problèmes d'interprétation, ce qui peut causer des conflits entre les héritières et héritiers. Par exemple, si vous écrivez « Je lègue ma bague à un tel », mais que vous avez un coffret bijoux rempli à ras-bord de bagues, ça risque de créer de la confusion. Le testament notarié n'a pas, lui, à être vérifié devant le tribunal. Il est donc plus rapide d'application après le décès et n'implique pas de frais de vérification. Annulez le tout. En révisant votre testament, vous constatez que des changements importants s'imposent. Vous pouvez alors le révoquer, c'est-à-dire l'annuler. Si la révocation est faite sous forme holographe ou devant témoin, elle devra être vérifiée au tribunal ou par une ou un notaire à votre décès. Une étape obligatoire est nécessaire pour annuler le testament précédent. Là aussi, les mêmes frais et délais s'appliquent que dans le cas d'une simple modification. En revanche, il est également possible pour les membres de votre famille de contester la validité de la révocation, en affirmant que vous n'étiez pas en mesure d'en comprendre les impacts juridiques ou qu'une personne vous a forcé à la faire. Raisons pour réviser un testament. Les raisons qui peuvent vous pousser à réviser votre testament sont multiples. Quoi qu'il en soit, il faut se souvenir que la loi évolue constamment. Elle pourrait invalider certaines de vos volontés. Ces dernières ne seraient donc pas exécutées après votre décès. Mieux vaut le savoir et faire les changements applicables si cela est nécessaire. Le droit change. L'information juridique contenue dans ce texte est valide en date du 12 janvier 2024. Ce texte est informatif. Ce n'est pas un avis juridique. Éducalois est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de vulgariser le droit et de développer les compétences juridiques de la population du Québec. C'était « Comment modifier un testament? » un texte d'Éducalois paru le 1er mars 2024 dans le magazine Virage.